Alexandre Dumas, Black, chapitre 37. Lequel se gardera bien de finir autrement que ne finissent d'ordinaire les derniers chapitres de roman. Lorsque M. de la Gravery rentra à l'hôtel de Londres, on lui apprit que Thérèse était arrivée et l'attendait dans sa chambre. L'émotion du chevalier était si forte qu'il ne se sentit pas le courage d'annoncer à la jeune fille les événements qui venaient de modifier si profondément son existence. Il mit M. Chalier au courant de ce qu'il y avait à dire et le poussa dans la chambre, tandis que lui attendait derrière la porte. Thérèse fut fort étonnée de voir entrer un étranger au lieu de M. de la Gravery. Mais M. Chalier se hâta de la rassurer. D'ailleurs, Black, qui avait flairé sa jeune maîtresse, suivait le négociant et faisait toutes sortes de caresses à Thérèse. Seulement, lorsque celle-ci apprit le danger auquel M. de la Gravery venait de s'exposer pour elle, elle s'écria « Tout est perdu. Ô mon père, mon bon père, où donc êtes-vous ? » Le chevalier ne put résister à ce cri. Il ouvrit la porte et se précipita dans les bras de la jeune fille, qu'il pressa contre son cœur en lui couvrant le front de baisers. « Mordieu, cordieu ! » s'écria-t-il lorsqu'il se fut dégagé de cette étreinte. « Me voilà payé de tout ce que j'ai fait pour toi, mon enfant. Oh, que c'est bon de se revoir et de s'embrasser !» lorsqu'on a été si près d'être à jamais séparés. Non, ventre bleu, il n'est rien sur terre qui vaille ce bonheur-là. » Puis, s'arrêtant tout à coup, comme effrayé de lui-même, « Ah, ça ! Mais, ajouta-t-il, il est temps, ce me semble, que je rentre dans mon assiette. Depuis 2 jours, je jure comme un païen, ce qui ne m'était jamais arrivé, même dans mes grandes colères contre Marianne. Sac à papier, c'est maintenant que la bonne chanoinesse ne me reconnaîtrait plus. « Cher père, dit Thérèse en embrassant de nouveau le chevalier, cher père, jamais dans mes rêves les plus ambitieux, je n'aurais osé souhaiter ce qui m'arrive aujourd'hui. » Puis, passant à un autre ordre d'idées, « Hélas, dit-elle, ma pauvre mère est donc morte. Oh, nous en parlerons souvent, n'est-ce pas ? » Monsieur Chalier jeta un regard plein de compassion et d'anxiété sur le chevalier. Mais celui-ci ne parut aucunement ému de la demande que lui adressait la jeune fille. « Oh, bien certainement que nous en parlerons, répondit-il. Elle était si bonne, elle était si belle. Tout ton portrait, mon enfant. Ah, si tu savais combien elle m'a rendu heureux dans ma jeunesse, quel charmant souvenir elle m'a laissé d'un temps qui est bien loin de nous, mais qui reste toujours présent à mon cœur. Elle aussi a donc été bien malheureuse ? Hélas, oui, chère petite, que veux-tu ? Ajouta le chevalier avec un soupir. J'étais jeune, et je n'ai pas toujours été raisonnable. « Oh, c'est impossible, père !» s'écria la jeune fille. « Et si ma mère a été malheureuse, je jure bien que ce n'est point par vous. » « Savez-vous que c'est de l'or en barre que votre cœur ?» dit M. Chalier à l'oreille du chevalier de la Gravery. « Bon, reprit celui-ci, mon cœur, je lui en veux. S'il n'avait pas été si paresseux et si lâche, il y a 8 ans que je dorloterais sur mes genoux ce cher petit être-là. C'est cela qui doit être bon, mon ami, d'être embrassé par une fillette de 9 ans, toute blonde et toute rose. Eh bien, voilà un bonheur dont mon égoïsme m'a sevré. » En ce moment, le garçon d'hôtel entra, prévenant M. de la Gravery qu'un jeune homme, le même qui était déjà venu dès le matin, l'attendait sur le palier. Le chevalier sortit vivement. C'était Henri, en effet. Thérèse est là, lui dit monsieur de la Graverie. Voulez-vous la voir ?
Non, monsieur, répondit Henri. Cela ne serait convenable ni pour elle ni pour moi. Je n'assisterai pas même à la cérémonie.
Mon père, auquel je viens de raconter tout ce qui s'est passé et qui a donné son consentement à cette réparation trop tardive,
mon père représentera notre famille près de mon malheureux frère.
Mais Thérèse avait entendu une voix, et avec cette perception extraordinaire que donnent les affections profondes, elle avait reconnu celle de Henri. Avant que M. Chalier eût pu s'opposer à son dessein, avant qu'il eût pu même le soupçonner, elle ouvrit la porte et se jetant dans les bras du jeune homme.
« Oh, Henri, Henri, dit-elle, tu sais que ce n'est qu'à toi que j'ai cédé. »«
Je sais tout, ma pauvre Thérèse, dit Henri.
« Oh, pourquoi m'as-tu abandonnée ? Murmura la jeune fille.
« Hélas, j'expie cruellement ma faiblesse, répondit Henri. « Mais soyons aussi grands que notre malheur, Thérèse. Dans quelques instants, vous serez ma sœur. Restons l'un et l'autre dignes des nouveaux liens qui vont nous unir. Laissez-moi me retirer.
Ne m'abandonnez pas en ce moment, Henri, je vous en supplie. Restez près de moi jusqu'à ce que de nouveaux serments nous aient séparés pour la seconde fois. »
Henri, qui lui-même souffrait horriblement de quitter Thérèse, n'eut point la force de résister à sa prière, et se résigna à l'accompagner près de son frère. Si douloureux que dut être le trajet, Gratien avait exigé qu'on le reconduisît à Paris. On l'avait déposé à l'hôtel du Faubourg Saint-Honoré. Le chevalier, Thérèse, Henri et M. Chalier trouvèrent M. Delbène, le père, et les deux officiers qui avaient servi de témoins auprès du lit du blessé. Un chirurgien avait été appelé et lui donnait des soins. Gratien était couché sur un lit de repos et maintenu par des coussins dans une position presque perpendiculaire afin d'empêcher le sang de s'accumuler dans la poitrine. Il était pâle et cependant ses yeux avaient un calme et une sérénité qui jadis manquaient complètement à son regard. Lorsqu'il vit entrer Thérèse, pâlie elle-même et changée par sa grossesse, soutenue qu'elle était d'un côté par Henri, de l'autre par le chevalier, Gratien tira lentement ses mains de dessous ses draps maculés de sang et les joignit comme pour demander pardon à la jeune fille. Sa respiration était tellement oppressée qu'il parlait avec la plus grande difficulté. Au reste, ce fut le comte Delbène qui prit la parole. « Mon fils a eu de grands torts envers vous, mademoiselle, dit-il. Il les expie justement, mais cruellement. Daignez lui pardonner et adoucir par votre compassion les derniers moments de mon pauvre enfant. » Thérèse se jeta à genoux près du lit de Gratien, prit dans ses mains les mains déjà glacées du moribond, et les pressa contre ses lèvres en sanglotant. En sentant cette étreinte, Gratien se ranima, et il essaya d'adresser à sa triste fiancée un sourire de remerciement. En ce moment, l'officier de l'état civil et les prêtres que l'on avait envoyés chercher entrèrent dans l'appartement. Le premier procéda à l'union légale des deux époux. Puis, le prêtre et ses acolytes ayant revêtu leurs habits sacerdotaux, commencèrent la cérémonie religieuse. C'était un spectacle vraiment imposant que celui qui s'accomplissait dans cette chambre. Partout, l'appareil de la mort, des linges imprégnés de sang épais sur les tapis, une trousse et des instruments de chirurgie sur un meuble. Assis dans des coins ou debout autour du lit, des hommes à visages pâles et consternés. Au milieu de tout cela, le bruit des sanglots de Thérèse, interrompant la voix monotone du prêtre qui psalmodait les prières. Et par-dessus tout, le sifflement strident de la respiration du blessé. Enfin, la physionomie des deux époux, dont l'un était cette pauvre fille, à peine remise de la terrible maladie à laquelle elle venait d'échapper, et qui, succombant sous son émotion, ne semblait vivre que pour conserver à l'existence l'enfant qu'elle portait dans son sein, et dont l'autre se fiançait à la mort en même temps qu'à la jeune femme, et devait avoir un cercueil pour les nuptiales. Tout cela, éclairé par la lueur vacillante de quelques cierges, formait un tableau des plus émouvants. Lorsque le prêtre demanda à Gratien s'il consentait à prendre Thérèse pour épouse, Gratien prononça un oui si clair et si distinct qu'on l'entendit à l'autre bout de l'appartement. Puis, appuyant sa tête sur ses mains, il sembla attendre avec anxiété que Thérèse répondit à la même question. Au moment où l'officiant prononça les paroles qui consacraient devant Dieu l'union des deux époux, Gratien laissa retomber sa tête sur l'oreiller. Sa main pressa doucement la main de Thérèse que le prêtre avait mise dans la sienne. Puis, cherchant des yeux monsieur de la Graverie, qui, agenouillé au pied du lit, priait avec ferveur, « Êtes-vous content, monsieur » murmura-t-il d'une voix éteinte. Mais le double effort qu'il avait fait pour répondre oui et pour adresser cette question au chevalier avait épuisé le blessé. Un mouvement convulsif l'agita, ce qui restait de rouge sur ses joues, et la flamme dans ses yeux s'effaça. « Madame, dit le prêtre, si vous voulez recueillir le dernier soupir de votre mari, il est temps. » La jeune femme se précipita sur le corps de Gratien. Mais, avant que ses lèvres eussent touché les lèvres du blessé, l'âme avait quitté le corps. Gratien avait rendu le dernier soupir. Black, à qui personne ne songeait, fit entendre une longue et funèbre plainte qui fit passer un frisson dans les veines de tous les assistants. Le chevalier de la Graverie fut longtemps à se remettre de la terrible émotion que lui avait causée et cette catastrophe et les circonstances qui l'avaient précédée. D'autres soins, d'autres inquiétudes parvinrent seuls à l'en distraire. Madame la baronne d'Elben était devenue mère et, pour un cœur aussi impressionnable que l'était celui du chevalier, le nouveau venu, car l'enfant se trouvait être un garçon, le nouveau venu n'était pas un médiocre sujet de tourment. Il se préoccupait à la fois et du choix de la nourrice et des soins à donner à l'accoucher et à son enfant. Et, comme si ce n'avait point été assez de ses soins, son imagination, qui tenait apparemment à rattraper le temps qu'elle avait passé dans l'engourdissement, lui faisait entrevoir tout à la fois le sevrage, l'enfance, l'adolescence et l'âge viril du bambin. Il songeait aux moyens qu'il emploierait pour préserver des dangers du monde ce pauvre petit être qui n'avait pas encore échappé à ceux de la dentition. Un jour, lorsque Thérèse fut rétablie, le chevalier insista pour qu'elle l'accompagnât dans sa promenade habituelle, interrompue par tant d'événements. La baronne d'Elben, qui ne savait rien refuser, à un père si tendre et si prévenant, y consentit avec bonheur. Le chevalier la conduisit au banc de la butte de la Courtille, sur lequel il avait l'habitude de s'asseoir tous les jours autrefois, en contemplant le paysage. Il s'y plaça le premier, fit asseoir Thérèse à sa droite, la nourrice à sa gauche. Puis, prenant Black entre ses genoux,
et dire, fit-il, que M. Chalier nie absolument que Duménil soit sous cette peau noire.
Et cependant, c'est lui qui a tout fait.
Non, mon père, répondit la jeune fille en souriant, ce sont les morceaux de sucre que vous aviez laissés dans votre poche.
Le chevalier resta quelques instants silencieux, l'œil fixé sur les deux immenses flèches de la cathédrale qui élevaient au milieu des nues leurs croix de bronze et d'or.
« Au fait, s'écria-t-il en montrant le ciel, il est bien plus simple de croire que tout ce qui s'est passé est l'œuvre de celui qui est là-haut. Mais en tout cas, tu n'y as pas nuit, mon pauvre Black. »
Et tout en baisant le nez de l'épagneul, il ajouta tout bas, « Mon cher Duménil !»
Pendant ce temps, les braves chartrains qui promenaient leur désœuvrement sur les buttes observaient le chevalier en disant,
« Voyez donc, monsieur de la Graverie, il est radieux !»«
Je crois bien. Son estomac devenait mauvais, les truffes ne passaient plus, le homard ne passait plus. » Il a trouvé juste à point un nouveau péché pour remplacer l'ancien.
Oh, pouvez-vous dire cela, puisque l'on prétend que cette jeune femme est sa fille?
Sa fille? Et vous croyez cela, vous?
Ah, vous êtes bonne, ma chère. Vous ne savez pas combien ils sont roués, ces vieux de l'ancien régime.